Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
No Time to Lose, traduit en français Une course contre la montre, paru chez Odile Jacob, est un livre qui raconte une grande aventure, celle de la lutte contre deux virus, Ebola et le sida. Peter Piot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ces mémoires, que vous ne voulez pas être une sorte d'autobiographie définitive, mais enfin, tout de même, on voit dans votre livre que c'est à la fois une sorte de grande bande dessinée, de livre d'aventure scientifique à la Jules Verne, un livre également aussi de coups de cœur, qui raconte comment les amitiés sont importantes dans votre métier et dans le combat que vous avez mené, combat contre les virus mortels, c'est le sous-titre du livre, combat contre les virus mortels, sida et Ebola. Vous êtes microbiologiste, professeur de santé globale et directeur de la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine, pas très loin dans le côté, dans le quartier un peu français d'ailleurs, hein, de Londres.
Oh, oui.
Vous n'êtes pas très loin des beaux musées et des beaux panoramas londoniens qui vous régale quand vous avez le temps de rêver un peu, ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis vous êtes par ailleurs, si j'ose dire, l'un des co-découvreurs du virus Ebola. Vous avez été directeur exécutif de l'ONU SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la première conférence internationale organisée par l'Institut Pasteur et à l'Institut Pasteur consacrée à Ebola. Conférence intitulée en anglais Targeting Ebola 2015. Ce qui veut dire quoi? Viser Ebola, cibler Ebola.
Oui, cibler, oui, c'est ça.
En français. Vous vous prononcerez tout à l'heure à 9h à la conférence d'ouverture de cette deuxième journée, conférence intitulée Épidémiologie et contrôle d'Ebola. Vous consacrez votre vie de scientifique et de diplomate à la lutte contre la propagation de ces deux virus mortels découverts à la fin du XXe siècle et qui continuent de faire, vous le dites aujourd'hui encore, trop de morts en ce début de XXIe siècle. Un petit rappel peut-être, depuis un an, le virus Ebola a recommencé à tuer plus de 11 000 personnes, essentiellement au Libéria, en Guinée ou en Sierra Leone. Alors beaucoup de questions se posent évidemment, pourquoi cette épidémie n'a-t-elle pas été enrayée plus vite? Pourquoi l'OMS avertissait-elle mardi qu'Ebola ne devrait pas être éradiqué avant la fin 2015 et pourrait persister plus longtemps encore? À vos côtés ce matin, celui qu'on appelle en France docteur Ebola, Jean-François Delfrécy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres, vous occupez de l'Agence nationale de recherche sur le sida, vous êtes microbiologiste, directeur de l'Institut de microbiologie à Bicêtre, et vous êtes le docteur Ebola, vous avez été chargé par Barniel Valls de coordonner la lutte contre Ebola. Comment donc lutter contre toutes ces maladies? Ce sont les questions que nous vous poserons ce matin, notamment avec une échelle mondiale qui n'en finit pas aussi de varier selon les pays et puis selon les maladies. On apprend par exemple qu'en Ukraine aujourd'hui, il y a une recrudescence par exemple du virus du sida. Mais peut-être pour comprendre un peu les choses au départ, Peter Piot, quand on lit votre livre, on ne sait pas bien à qui on aura affaire quand on vous recevra dans les matins. Est-ce que vous allez arriver avec un Stetson, une veste d'aventurier qui c'est un casque colonial, je ne sais pas, ou est-ce que vous allez arriver en costard-cravate? Il y a plutôt la cravate ce matin. Mais dites, c'est quand même une vie. La vie que vous avez eue, vous ne vous en doutiez pas, si ce n'est quand même que votre grand-mère disait, oui, que vous aviez le feu aux fesses. Donc on aurait pu penser que, effectivement, vous auriez une vie mouvementée. C'est une vie d'aventurier, d'abord, avant d'être une vie de médecin.
Moi, j'ai eu de la chance, en fait, aussi, parce que il y a les hasards de la vie. La découverte du virus Ebola, bon, ça s'est passé parce qu'on a reçu un échantillon qui venait de l'époque de Zaïre, d'une bonne sœur flamande. Et donc, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est une chose. Mais il faut être aussi bien préparé. Mais j'ai sûrement jamais planifié ma carrière, ça, c'est sûr.
Bon, vous êtes belge, d'origine flamande. Vous êtes même baron. Vous avez même convaincu, au fond, les Belges de pouvoir mettre dans votre blason le ruban rouge de lutte contre le sida. Et ça a failli ne pas marcher parce que le fameux ruban rouge, il n'existait pas dans l'héraldique belge.
Non, les règles d'héraldique qui datent de je ne sais pas quel siècle ne connaissaient pas le ruban rouge. Mais j'ai insisté et j'ai dit, bon, si je ne peux pas faire ça, je n'ai pas besoin de ce titre, bon, que j'avais jamais demandé d'ailleurs.
Et, voilà. Mais enfin, comme vous dites, les honneurs, ça ne se demande pas, mais ça ne se refuse pas non plus. Que s'est-il passé pour que vous soyez sensibilisé, on l'apprend quand on lit le livre bien sûr, mais à toutes ces questions d'épidémie, de recherche contre les maladies, contre les infections, de votre Belgique natale? Il y a eu une rencontre déterminante.
Bon, d'un côté, j'ai grandi dans un petit village en Flandre très conservateur, très catholique. Et quand j'avais 10 ans, je savais ce que je voulais faire. J'avais un but, et c'est partir et voir le monde. Et ce qui m'avait influencé, c'était un petit musée dans le village à côté, le musée de la ferme où était né le père Damien, voilà, qui est mort de la lèpre et qui a consacré sa vie à la lutte contre la lèpre, surtout en Hawaï, et qui est devenu un saint d'ailleurs, et qui est le héros local. Et il y avait rien d'autre à voir dans les environs. Et bon, moi, j'allais à vélo pour visiter. Ça m'a frappé aussi bien l'exotisme, mais aussi l'humanisme, l'humanitaire, mais aussi la discrimination. Tout ça, ça m'a fortement frappé. Oui.
Oui. Si vous dites, c'est le père Damien qui vous a donné votre vocation.
Oui, mais pas pour devenir missionnaire. Ça n'a jamais été mon ambition.
Il y a une devise familiale. Vous parlez de votre vélo. Il y a une devise familiale qui aussi explique des choses concernant votre caractère éventuel, Peter Pio. C'est celle de votre grand-père et de son équipe cycliste. Le repos rouille.
Oui, c'était mon arrière-grand-père qui était ouvrier, machiniste. Et mais qui avait déjà un vélo, il y a un drapeau que j'ai hérité de lui, qui date de 1905 et qui a comme thème, le repos rouille. Et puis c'était en fait un mouvement des ouvriers pour une meilleure santé, pour qu'ils ne passent pas tout leur temps dans les cafés et boire. Mais je soupçonne fortement qu'ils allaient de café en café avec leur vélo.
Alors, comment découvrez-vous et racontez-nous, ça c'est rocambolesque. Je ne sais, Jean-François Delfrécy, si vous avez le même aventure, mais c'est souvent comme ça que ça arrive. comment découvrez-vous et vous mettez-vous à travailler sur ce virus que vous baptiserez Ebola plus tard, mais qui arrive dans votre laboratoire au mépris de toutes les règles de prudence, de sécurité qui aurait pu peut-être déclencher une catastrophe inimaginable si la moindre erreur, et il y en a eu quelques-unes, mais n'avait pas été contrecarrée. Comment racontez-nous cette histoire de bouteille thermos avec du sang fondu dans des glaçons, doute un des virus les plus dangereux du moment.
Oui, on a eu de la chance, et puis aussi, je crois qu'aujourd'hui, si on traitait comme ça, le transport d'un échantillon et la manipulation, je crois qu'on va tout droit en prison. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que...
On est dans les années 70.
76, voilà. Septembre 76, moi j'étais en formation en virologie clinique, et donc on recevait une thermos bleue chinoise. Ça, je me souviens toujours de ce thermos, et qu'un pilote de la Sabena, ex-Sabena, la compagnie aérienne belge, avait amené de Kinshasa, et qui contenait deux tubes en verre, parce qu'à l'époque tout était en verre, maintenant c'est en plastique. Un tube était cassé et donc nageait dans un peu de liquide. De glaçons et d'eau et un peu de sang.
La chaîne du froid avait été rompue, dites-vous, donc c'était pas totalement bien conservé.
On a eu de la chance que l'Ebola, le virus, est assez robuste pendant quelques temps. Et on l'a ouvert, on était un laboratoire qui s'occupait beaucoup des arbovirus. Et donc c'est des virus qu'on trouve dans les tropiques et qui sont transmis par des insectes. Et le diagnostic présumé était fièvre jaune. Et là, il n'y a pas de problème, on était vaccinés, on a traité cet échantillon comme il faut pour la fièvre jaune. Et puis on l'a inoculé. À l'époque, la virologie était très artisanale. C'était comme à la cuisine, on inocule des tubes, des milieux, des bouillons, et aussi des souris, des souris, des souriçons, etc. Donc ça, c'est pas sans danger, parce que il faut inoculer, utiliser des seringues, et tout ça avec des gants, comme on utilise maintenant dans les laboratoires. Et ce n'est que quelques jours après, une semaine après, qu'on a vu qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et là aussi...
Et qu'il y avait quoi ? C'est-à-dire que vous avez vu quelque chose que vous n'aviez jamais vu ?
C'est ça, parce que là, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? Là, on mettait un échantillon sous le microscope électronique parce qu'un virus, ça ne se voit pas sous un microscope ordinaire. Et là, contrairement aux virus qui, en général, sont des sphères, sont ronds ou carrés, c'était un virus qui, une image qui, comme un verre. Et ça, on n'avait jamais vu. Et puis, c'était avant l'Internet et Google, il fallait aller à la bibliothèque pour trouver un atlas de virologie, d'images, de microscopie électronique. Et là, on a vu que c'était comme le Marbourg, un virus qui avait été isolé il y a quelques années après, avant, en Allemagne, et qui avait tué quelques dizaines de personnes qui travaillaient en préparant des vaccins contre la polio. Ils étaient infectés par des cellules qui venaient de singes verts. Et là, on commençait quand même à paniquer, pour être honnête.
Mais parce que ça lui ressemble à ce virus, mais ça n'était pas celui-là.
Hein. C'était pas celui-là, mais ça, on n'était pas capable de distinguer entre ce qu'on avait trouvé et le Marbourg. À l'époque, il n'y avait pas ces techniques génétiques qu'on utilise maintenant. Il fallait mettre en contact avec un antisérum spécifique. Donc, on a envoyé l'échantillon à Atlanta, au laboratoire du Center for Disease Control. Mais, entre-temps, l'OMS nous avait dit aussi d'arrêter toute recherche. Bon. Mais on a quand même
encore... Vous avez continué un peu en douce, hein.
Oui,
vous dites,
pendant 24 heures pour...
Vexé d'être dessaisi de ces recherches-là. Et là, oui. Alors, mais que se passe-t-il? Quand vous dites que vous avez paniqué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes dit que vous étiez en présence de quelque chose que vous ne maîtriseriez pas, qui risquait quoi, de vous infecter, ou que vous ne donneriez pas de réponse à ceux qui vous l'avaient envoyé, qui attendaient, j'imagine, un secours, un soin, quelque chose, une réponse?
C'était vraiment pas... Quand j'ai dit paniquer, c'était un peu exagéré.
Vous êtes inquiété quand même.
On est un peu à terre, donc on panique pas facilement. Mais on était très inquiets. Ouais. On était très inquiets pour nous-mêmes. Pour ce qui se passait. Entre-temps, on avait des nouvelles qui venaient d'Afrique, disant qu'il y avait une épidémie avec des centaines de morts, pas vérifiées.
Et des fièvres hémorragiques.
Hémorragiques.
Notamment.
Et moi, à ce moment-là, c'est passionnant d'isoler un nouveau virus, ça c'est sûr, mais j'étais surtout intéressé pour aller en Afrique et pour voir comment est-ce que ça se transmet. Parce que l'isolement, la découverte était... en fait, un accident. On a fait notre boulot, c'est ça, comme ça. Mais trouver comment ce virus se transmet, ça, c'était une démarche scientifique et pas facile. Moi, j'avais jamais mis les pieds en Afrique, à part le Maroc, où j'avais travaillé pour une agence de voyage, et j'avais aucune expérience pour en épidémie. Donc, c'était vraiment pas qualifié, mais.
Et y compris, au fond, en voyage de ce côté-là du monde. Hein, vous dites même que on vous considère un peu comme un blanc-bec par moment. Et puis, à d'autres moments, ça devient carrément, je ne sais, Jean-François Delfrécy, si vous avez eu le temps de parcourir, de lire le livre de Peter Pio, mais ça devient du Conrad. Parce que vous vous retrouvez tout d'un coup dans une forêt. Là, vous dites, au fond, que dans la forêt zaïroise, vous écrivez, nous allions au-devant de quelque chose d'horrible et d'incontrôlable.
Oui, je me souviens très bien encore le moment. Bon, on est arrivé un lundi matin à Kinshasa. Là, j'étais vraiment très excité. On était... j'allais tout de suite dans une réunion présidée par le ministre de la Santé, qui avait un très grand cigare qu'il fumait tout le temps. Ça, c'était à l'époque différent. Et il y avait des Américains, il y avait un Français, Pierre Sureau de l'Institut Pasteur, qui était là pour l'OMS. Et on demandait des volontaires pour aller dans la zone épidémique. Et moi, j'ai tout de suite levé la main, parce que je ne me voyais pas passer mon temps dans les réunions de coordination à Kinshasa, ne sachant pas que je passerai beaucoup de temps de ma vie dans des réunions pareilles.
Mais là, tout d'un coup, ça bascule. C'est-à-dire que votre vie prend un autre tour. Vous dites qu'il y aura deux moments très importants dans votre vie. Il y a celui-là, et puis à nouveau aussi quand il y aura la question, notamment du sida. Hein. Mais là, votre vie bascule d'abord parce que tout simplement, vous voyez des gens mourir autour de vous, comme vous n'aviez jamais vu de gens mourir ou autrement qu'à l'hôpital, aussi tragique que ce soit, vous dites, mais les conditions étaient réunies pour qu'on voit paisiblement des gens mourir. Là, vous voyez des gens mourir sous vos yeux, et il y a de l'effroi, parce que vous êtes censé en même temps les... Enfin, non pas les soigner, mais en tout cas essayer de trouver quelque chose. Habillés comme des cosmonautes, faisant peur à tout le monde.
Non, pas comme des cosmonautes comme aujourd'hui. Ouais. Tout ce qu'on avait, c'était un masque en papier chirurgical. J'avais emprunté, entre guillemets, les... des lunettes de motocycliste et des gants. Et puis c'était tout. Et en fait, c'était un choc multiple d'un côté, première fois en forêt tropicale où vivaient les gens dans une pauvreté absolue. Ça me frappait beaucoup. La nature, les sons, la nuit, on entend les animaux. Et puis, les gens qui mouraient dans les villages et on ne pouvait rien faire. Moi, je prélevais du sang, on donnait un peu de, bon, parce que presque d'aspirine, quelque chose contre la diarrhée, etc. Et oui, ça a vraiment changé ma vie. Puis aussi, j'étais confronté avec la mort de façon, enfin, plusieurs fois, personnellement. Et donc, c'était une aventure, mais aussi une découverte, disons, scientifique, mais aussi une découverte de moi-même.
Et vous dites aussi que c'est la découverte là, à ce moment-là, quoi, d'une injustice très grande, à savoir, vous vous dites, mais comment peut-on laisser des populations entières en proie à ce virus et sans les aider?
Oui, tout à fait. Et ça m'a toujours, ça a été toujours un thème dans ma vie, parce qu'après, avec le sida, c'était pareil. On avait le traitement ici, au nord, depuis 96, mais il y avait littéralement des millions de gens qui mouraient en Afrique à cause du fait qu'ils n'avaient pas accès à ce traitement. Et ça devenait une espèce d'obsession pour remédier à ça.
Et du coup, il y avait quoi? L'idée qu'il fallait faire aussi un autre métier que vous devez faire en ce moment, j'imagine aussi Jean-François Delfrécy, c'est-à-dire quoi? Diplomate, en quelque sorte.
Diplomate politique, ouais, un des thèmes du livre d'une course contre la montre, c'est que il faut marcher sur deux jambes, en fait, c'est la science et la politique. Et la science sans politique n'a aucun impact. Politique sans science, ça peut être très dangereux. Donc, il faut vraiment cette synergie pour avancer.
Le virus d'Ebola aujourd'hui, on en est où?
Bon, on a fait beaucoup de progrès en Afrique de l'Ouest. Le Libéria est sans cas d'Ebola depuis maintenant 3-4 mois. Mais l'épidémie n'est pas terminée. Et comme vous l'avez dit, en Guinée et en Sierra Leone, ça continue. Il y a moins de cas, mais il y en a plus qu'il y a deux semaines.
Et le paradoxe, c'est quoi, Jean-François Delfrécy? On vous écoutera davantage en deuxième partie, mais c'est qu'on a cru à un moment donné qu'il y avait quoi, une sorte de récession du virus. On a pu croire que quelque chose se tasser un peu, et puis ça n'est pas le cas?
Non, c'est pas le cas, pour des raisons sociétales, culturelles. Le premier aspect de lutte contre Ebola, c'est finalement isoler les patients, traquer les personnes qui ont été en contact avec eux, et il y a des résistances culturelles qui existent. Et puis arrive la saison des pluies, donc on est quand même dans un certain état d'inquiétude sur ce qui peut encore se passer en Afrique de l'Ouest.
Nous revenons sur toutes ces questions avec vous, Peter Pio, Jean-François Delfrécy, dans la deuxième partie des matins qui sera comme chaque jour introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. À l'heure de la mondialisation, les épidémies se répandent rapidement et cette interdépendance entre toutes les régions du monde devrait précisément nous amener à mutualiser nos moyens de lutte contre ces fléaux. Alors, les leçons d'Ebola dans ce domaine ont-elles été correctement tirées?
Voilà la chronique de Brice Couturier à 8h15 pour la deuxième partie des matins. Pour l'heure sur France Culture, il est 8h.